Cet épisode est sponsorisé par User Testing. User Testing est une solution de collecte de retours utilisateurs et d'insights clients. Dans ce podcast, on parle souvent de la nécessité de tester son produit pour savoir ce qu'en pensent réellement les utilisateurs. Avec User Testing, vous pourrez facilement recruter vos clients et des utilisateurs pour tester vos interfaces, que ce soit un site web, une application ou même des maquettes. Les retours obtenus sur User Testing vous permettront de savoir ce que pensent vraiment vos utilisateurs de vos interfaces et de prendre les bonnes décisions d'évolution pour vos designs. Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute! Rémi, Tristan, soyez les bienvenus dans ce second épisode de Case Study. Pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, Case Study, c'est un hors-série de Design Journeys dans lequel on revient sur un sujet en particulier. Il y en a déjà eu un avec Loïc, le ancien Head of Design de Malte, sur lequel on a parlé du rebranding de Malte. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir pour parler de recherche utilisateur, de comment vous menez la recherche utilisateur chez BlaBlaCar, et surtout parler de votre livre qui, au moment où on enregistre, n'est pas encore sorti, mais normalement sera en précommande ou sera sorti quand l'épisode sortira. Donc ça s'appelle Discovery Discipline, et on va parler de ça aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien vous présenter tous les deux, s'il vous plaît ?
Salut Gauthier, merci de nous recevoir déjà. Ravi de te rencontrer et de faire partie de ce hors-série. Donc moi, je suis Tristan Charvillat. Donc je viens d'un parcours en psychocognitive. J'ai travaillé en agence pendant 5 années, puis chez PayPal pendant 5 années et BlaBlaCar pendant 5 années. Voilà, partager une grosse partie de mon parcours avec Rémi. Et récemment, j'ai rejoint Malte, donc la plateforme des freelances.
Salut Gauthier, moi c'est Rémi. Donc moi j'ai plutôt un parcours qui vient de la communication. Au départ j'ai travaillé dans des structures assez variées. J'ai bossé à la mairie de Lyon, dans une toute petite agence, dans des assos. Et puis j'ai rejoint PayPal pour me concentrer sur justement une boîte tech, bosser sur des sujets d'interface utilisateur. Et ensuite j'ai rejoint BlaBlaCar où je suis aujourd'hui et j'exerce le rôle de Chief Product Officer.
Super. Est-ce que l'un de vous deux pourrait me résumer votre livre en 1 minute ?
Je vais essayer. Alors le premier point, c'est tout à l'heure tu disais qu'on va beaucoup parler de recherche utilisateur, c'est vrai. Mais moi, la manière dont je définis l'activité de discovery, c'est le fait de découvrir la solution qu'on va avoir besoin de construire. Par opposition à une phase de delivery où on a la solution en tête, il va falloir la construire pour de vrai, la développer, etc. Donc la phase de discovery, c'est l'activité sur laquelle on s'est penché. Et le livre, il s'appelle Discovery Discipline, parce qu'on a l'impression que cette phase de discovery, elle donne parfois l'impression d'être une phase très exploratoire. Et nous, on pense que, bien sûr qu'il y a besoin d'exploration, de créativité, de curiosité, mais il y a aussi besoin d'énormément de discipline et de rigueur et de convergence et de focus. Et donc, le bouquin, il vise à accompagner n'importe quel professionnel de notre métier, que ce soit un product manager, un designer, un product marketing manager, un researcher, dans cette phase de discovery, à trouver une structure qui permet de transformer quelque chose de très flou, très vague au départ, à une solution précise dans laquelle on peut avoir confiance, qui serait prête à partir en delivery.
Qu'est-ce qui vous donne la légitimité d'avoir écrit ce livre ?
Alors, en termes de légitimité, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, les profils de Tristan et le profil de Tristan et le mien sont assez complémentaires. Par exemple, la manière dont on a écrit le livre, elle reflète bien la manière dont on travaille en général, c'est-à-dire que Tristan, c'est lui le créateur. Et c'est moi qui amène plus de rigueur, si je caricature un petit peu. Donc ça, c'est un premier élément, c'est que cette tension qui est propre au sujet de créativité et de production, elle est déjà présente dans notre collaboration. Ensuite, même si on a parfois travaillé sur des métiers similaires, aujourd'hui, moi, j'incarne complètement la dimension product management et Tristan la dimension design, donc ça fait une autre complémentarité. Et puis peut-être le dernier élément, c'est nos parcours nous ont amenés à travailler dans les structures de taille, de type assez différentes. Et donc c'est ça qui nous a amenés à identifier certains patterns en fait, en termes de pièges dans lesquels on tombait nous-mêmes souvent, de chercher des solutions pour les régler. Et je pense que toute cette expérience-là, c'est celle-là qu'on essaie de condenser dans une méthode qu'on a appliquée chez Blackart depuis 3 ans, avec énormément de succès en termes de qualité, de vitesse d'exécution, mais aussi d'autonomie et de confiance des équipes dans les solutions qu'elles découvrent.
Là, Rémi, tu as bien expliqué quel était le contenu du livre, un peu quel était votre constat et ce que vous vouliez faire. Ce livre, à qui il s'adresse en particulier ?
Alors, ce livre, il s'adresse, Rémi le disait, à beaucoup de professionnels qui travaillent dans notre univers, en fait, dans l'univers du digital. Étonnamment, avec quelques relecteurs un peu en dehors de notre domaine, on se rend compte qu'en fait, ils posent des questions qui sont aussi valables pour des gens qui seraient dans une perspective hors du digital, en particulier des gens qui veulent se lancer dans une nouvelle boîte, lancer un projet. Parce qu'en fait, la méthode, elle pose finalement des questions fondamentales pour affiner et consolider un projet. Donc, dans un sens, elle pourrait s'adapter à énormément de sujets. Nous, on a décidé de l'affiner et de l'appliquer sur notre métier. Donc, les product managers et les designers au cœur de la cible, c'est une méthode commune aux deux. C'est peut-être ça qui est un petit peu étonnant à la première lecture, c'est que on distingue pas le rôle du PM et le rôle du designer dedans. Ils ont des livrables communs, ils travaillent ensemble. Ça n'enlève en rien leur rôle spécifique, évidemment, avec souvent un angle plus business, plus affiné sur le business et parfois la tech côté product manager, avec un angle beaucoup plus créatif, exploratoire, même un peu de recherche, souvent côté designer, mais rien n'empêche d'avoir un peu des deux. Et donc, on s'intéresse à ça dans la convergence de leurs compétences pour faire avancer le process. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et après, en termes de taille de structure, ça marche vraiment pour toutes les tailles d'organisation, en fait. Et ça, c'est pas simplement notre mot à nous, c'est de l'avoir expérimenté. Elle a beaucoup été pensée et développée chez PayPal. Chez PayPal, en fait, on a commencé à avoir toutes les briques de cette méthode, mais de manière un petit peu dispersée. Voilà, on a inventé des exercices, on en a fait des présentations, on a vu ce qui marche, ce qui marche pas. Donc, elle a été incubée chez PayPal. Et puis, donc, une boîte énorme, hein, avec une vraie culture digitale, mais une très grosse entreprise. Et puis ensuite, elle a grandi et elle s'est mise en œuvre chez Blablacar, une structure, c'est pas une microstructure, mais enfin, c'est une boîte bien plus petite. Et elle a marché excellemment bien. Et aujourd'hui, on la pitch aussi auprès de jeunes fondateurs, auprès de gens qui lancent leur structure. Et elle marche aussi très bien, c'est-à-dire que elle n'est pas dépendante de la taille de l'entreprise. Elle va vraiment chercher à poser les bonnes questions. Puis après, les moyens et l'énergie qu'on va mettre pour apporter les réponses sera variable. Mais la question sera toujours la même, grosse ou petite entreprise.
D'ailleurs, tu parlais de l'écosystème digital. Est-ce que vous avez essayé de pitcher aussi cette méthode auprès d'entreprises ou d'entrepreneurs qui font des produits physiques ou autres que digitaux, en fait ?
Alors en fait, il y a un product manager avec qui je fais du mentoring régulièrement et c'est pas, enfin une partie de l'expérience qu'il propose, c'est à base d'objets physiques, c'est dans le domaine de l'éducation et la méthode elle marche complètement. En fait, une des raisons pour lesquelles on pense que cette méthode elle peut s'adapter à des environnements très différents. C'est parce qu'au fond, cette méthode, elle contient très peu de choses qui sont, à nos yeux, centrales. Et donc, en posant des questions aussi simples que quelle est la mesure du succès, quel est le cas d'usage principal, comment est-ce que vous allez pitcher cette solution à vos utilisateurs, etc. on se rend compte que ces questions-là, elles sont universelles. Et donc la raison pour laquelle on pense aujourd'hui qu'elle peut vraiment s'adapter à plein de situations, que ce soit des... Nous, on vient plus d'une culture, effectivement, où on crée des produits digitaux. Mais en réalité, ces questions-là, elles dépassent largement ce domaine-là.
Très bien. Avant qu'on parle de la méthode en elle-même, j'ai noté une chose qui vient de l'introduction du bouquin, c'est l'illusion serait de croire que les activités de discovery vont vous dire quel choix faire. Du coup, en lisant ça, je me suis dit, en fait, il faut s'attendre à quoi quand on fait de la discovery? Quelle est la finalité?
En fait, je crois que quand on écrit ça, c'est pour insister sur le fait que la discovery, elle implique nécessairement un gros effort de convergence et que ce n'est pas un exercice magique qui va, juste parce qu'on va suivre une liste d'exercices, amener à une solution évidente. Bon, évidemment, les solutions comme le sprint design, la méthode sprint design, évidemment, on l'a lu, évidemment, il y a plein de bonnes choses à dire dessus. Et puis ça a eu un effet d'évangélisation absolument fantastique sur la communauté au-delà des designers. Donc tout ça, c'est énormément de vertus, mais parfois on peut avoir un peu cette impression de se dire, mais en fait, bah, si je suis les exercices les uns après les autres, bah, je vais arriver à ma solution. Et en fait, c'est ça qu'on veut faire passer comme message dans cette phrase, c'est que c'est pas aussi simple que ça et qu'en fait il y a des moments difficiles. Il n'y a pas que des moments d'exploration. On sous-estime évidemment pas la complexité de l'exploration, mais il y a des moments où il va falloir prendre des décisions compliquées. Il va falloir prendre des risques, faire des choix. Et c'est ça qu'on veut exprimer dans ce positionnement. Ça, la solution ne va pas venir tout seul. Il va falloir faire des choix et prendre des risques.
Ok. Alors, quand vous m'avez contacté pour le livre, je me suis vraiment dit, ok, encore une nouvelle méthode sur la discovery et la recherche utilisateur. C'est cool, mais en fait, il y a comment dire ? Aujourd'hui, on parle beaucoup du double diamant. Donc, cette double étape qui est on diverge, on reconverge, on diverge, on reconverge. Je mettrai des épisodes dans lesquels on en parle en description si les gens sont intéressés pour creuser un peu le sujet. Pour vous, j'ai l'impression que le double diamant est un constat, enfin, vous faites un constat plutôt amer du double diamant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
Je dirais pas qu'on fait un constat amer parce que cette logique de diverge-converge, elle est au cœur de la méthode hein, de discovery discipline. Donc,
tout à fait.
Il n'y a pas de remise en question de cette logique-là. Par contre, je crois que... Alors, il y a deux constats qu'on fait. Le premier, c'est que deux exercices de diverge, deux exercices de converge, c'est probablement pas assez pour arriver à la solution. Donc, la métaphore est complètement juste. Mm-hmm. Par contre, le nombre de fois où il va falloir prendre des décisions en particulier, côté converge, ça nous semblait un peu léger.
D'accord.
Voilà. Mais ça remet pas en cause le modèle, encore une fois. Mais voilà, ça c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'est pour l'avoir beaucoup pratiqué dans des équipes design, au sein, donc pour avoir aussi aidé les autres à le pratiquer, on se rend compte que c'est ce que je te disais tout à l'heure, le diverge fonctionne maintenant très bien. Hein, on a réussi à libérer les esprits, maintenant se mettre autour d'une table pour dire on va lancer des idées, on juge pas les idées, on en génère, tout ça. On a bien avancé sur ces sujets-là. C'était pas le cas il y a 15 ans. Hein. Il y a 15 ans, lancer des idées idiotes, c'était pas une bonne stratégie. Aujourd'hui, c'est plus un problème. Donc diverger, c'est plus un problème. Par contre, on voit toujours des grandes difficultés à la convergence. Et d'ailleurs, ça s'exprime pas mal aussi dans les méthodes d'aujourd'hui. Hein. On finit par voter. Hein. Le vote, ça a plein de vertus, mais enfin, c'est rarement la meilleure méthode pour aller faire des choix un petit peu forts. C'est souvent le consensus général qu'on cherche et ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Donc, c'est en ça qu'on a challengé un peu le double diamant. Et on travaillait des visualisations de la chose et finalement, on se rend compte que la partie diverge, elle est peut-être très grande. Par contre, la partie converge, elle doit être très abrupte et très sèche. Donc, c'est presque la forme du diamant qu'on aimerait changer. Avec une partie de converge beaucoup plus mise en avant parce que c'est ça qui est difficile aujourd'hui.
Ok, pour qu'on voit bien les choses, du coup, est-ce que l'un de vous deux peut expliquer vraiment votre méthodologie, comment elle fonctionne et ce qu'on y retrouve dedans ?
Donc, le principe de la méthodologie repose sur 7 étapes. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que nous, on pense que la discovery, c'est pas quelque chose, c'est pas un événement, c'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps, quand on a le temps, si le projet en vaut la peine. Chez Blackart, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement pour tous les projets de passer par ces 7 étapes-là. Le temps qu'on va mettre derrière chaque projet peut complètement dépendre. Si c'est un petit projet, on veut juste régler un petit sujet, on va le faire et on va appliquer la méthode beaucoup plus rapidement que le projet de l'année où on va consacrer des semaines, des mois entiers à des sujets de discovery. Mais dans tous les cas, on passe par les 7 étapes. Est-ce que tu veux qu'on passe en revue les 7 étapes ?
On va passer dessus après, donc je pense que okay. On peut rester un peu dans le
un peu plus
haut niveau pour l'instant.
Et donc le principe, c'est à chacune des étapes, on propose dans la méthode un certain nombre d'activités qui cherchent un peu à explorer une thématique en particulier. Par exemple, quel est le cadre dans lequel on va travailler pendant ce projet-là ? Donc la première étape qu'on appelle frame, qui veut dire cadre en anglais. Mais une fois qu'on a fait ces activités-là, on va systématiquement passer par un livrable qui va forcer l'équipe à converger et à se mettre d'accord sur quelques éléments clés. Et la raison pour laquelle en fait cette méthode elle s'adapte très bien à d'énormes projets et à des tout petits projets, c'est que ce travail de convergence-là, en réalité, il peut littéralement être fait en 30 secondes. La difficulté, c'est quelle est la fiabilité de ce travail de convergence-là. Et donc, pour des projets extrêmement importants, on va mettre énormément d'activités, d'exploration, de divergence pour nourrir ce choix qui va être fait. À l'inverse, un projet rapide, on va prendre plus de risques et faire plus d'hypothèses. Et donc, à chaque étape, on fait un travail de divergence et ensuite on converge, 7 fois de suite. Et il y a un lien entre tous les livrables. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on enrichit notre compréhension du problème qu'on cherche à résoudre. On commence à donner un peu de clarté à certaines parties de la solution. Et la solution qui émerge au final, elle ne marche pas naturellement. En tous les cas, il y a une cohérence qui se crée au fur et à mesure de la méthode. Et donc cette méthode-là, en fin de la méthode, on a les grands contours de la solution qui ont été passés au crible de 7 différents critères et on est prêt à passer dans une phase de delivery. Donc ça veut dire qu'il y a encore plein de choses à clarifier, on n'a pas des spécifications précises, etc. Mais on a une idée solide qui est d'un point de vue produit, et d'un point de vue design, et d'un point de vue marketing, puisque c'est ces trois angles qu'on a beaucoup regardés, est complètement cohérente et adaptée à la motivation qu'on avait en démarrant le projet au départ.
Très clair. Donc on va rentrer dans les 7 étapes dans le détail. Moi j'avais juste une question, c'est donc encore une fois, en tant que grand fan du double diamant, il y a 2 étapes. J'ai bien compris que vous vouliez ajouter des étapes pour parce que 2 c'est pas suffisante et qu'il faut souvent diverger et reconverger très vite. Cela dit, 7 ça me semble beaucoup. Qu'est-ce que vous répondez au fait que du coup on passe d'une méthodologie assez simple, peut-être même simpliste, à une méthodologie qui est vraiment très processisée mais qui a peut-être beaucoup trop d'étapes?
Le sujet de la simplicité, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que simple, ça ne veut pas dire moins. Simple, pour moi, au contraire, c'est une histoire de densité. C'est une histoire d'avoir la bonne quantité des choses, par exemple, si on parle du nombre d'étapes. Donc, moi, je serais très curieux d'entendre de la part des lecteurs du livre ou des personnes qui ont écouté le podcast, de nous partager, selon eux, laquelle des étapes n'a pas de valeur. Et ça serait une bonne discussion. En réalité, je ne crois pas que les choses qu'on essaie d'évoquer de manière très précise dans notre méthodologie de Discovery Discipline ne sont pas présentes dans les explorations qui utilisent la méthodologie du double diamant. La particularité, c'est que nous, on leur met un spotlight extrêmement précis. Et on ne peut pas passer à côté. On a déjà eu parfois la question de « moi, j'ai pas le temps de passer par les 7 étapes ». Très bien, on n'a pas le temps. Mais ça veut dire que tu n'as pas le temps de savoir le cas d'usage que tu cherches à résoudre ou tu n'as pas le temps définir à quoi le succès pourrait ressembler, etc. Et en fait, la réponse semble évidemment non. Donc la question, pour moi, c'est plutôt quelle intensité on va mettre derrière la réponse à chacune de ces questions-là, mais de se dire qu'on n'est même pas intéressé par se poser la question me paraît étonnant.
Bon, je ne vous cache pas que cette question-là, je me la suis posée au début en lisant l'introduction du livre et qu'à la fin, Je me suis dit un peu comme toi, en fait. C'est effectivement, elles ont toutes leur place. Donc, c'était surtout pour avoir votre point de vue dessus, d'un point de vue d'un lecteur qui dirait au début, genre, ah là, c'est beaucoup. Parce que je sais que vous posez encore la question à l'heure actuelle de, est-ce que vous allez le mettre ou pas sur la page de présentation du livre. En tout cas, moi, ça m'a fait peur au début, mais une fois que j'ai tout lu, je me suis dit, ok, elles ont chacune un sens et ça, elles ont toutes leur place. Du coup, pour la suite de la discussion, on va rentrer étape par étape. Comme vous l'avez dit, il y a 7 étapes. Il y a plusieurs activités, mais à chaque fois un livrable. J'ai décidé de ne pas passer de temps sur les activités parce que, comme vous le dites dans le livre, il peut y avoir autant d'activités qu'il y a de personnes. Le but, c'est juste de diverger, d'aller dans le bon sens. Et donc, comme vous donnez certains exemples dans le livre et qu'il y en a beaucoup, j'ai pas envie qu'on passe trop de temps dessus, surtout qu'on peut en trouver d'autres. Donc, du coup, est-ce que vous pouvez me donner le nom des 7 méthodes? Et puis après, on va commencer par la première.
Tout à l'heure, j'expliquais que il y a une dimension marketing qui est présente dans le livre et c'est pas complètement le hasard. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que on a découvert un peu par la pratique que la forme et le fond sont extrêmement importants l'un et l'autre. Et donc on a eu la chance chez Blacard de travailler avec les équipes marketing et produits main dans la main. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bénéfices à faire ça. Et donc, il se trouve que quand on réfléchit à partager notre méthode, on réfléchit aussi à des choses comme la manière dont on va le pitcher. Et donc, pour que les gens retiennent correctement cette méthode-là, on a trouvé un acronyme donc en 7 lettres qui correspondent aux 7 étapes. Ce mot, c'est donc « focused » en anglais, qui veut dire le fait d'être extrêmement concentré. Et donc « F-O-C-U-S-E-D », ça va être la première lettre de chacune des étapes. Est-ce que tu veux qu'on les passe en revue?
Eh bien, commençons par la première, qui est « frame », du coup.
Absolument.
Le principe va être assez simple. À chaque fois, il y aura deux questions qui lanceront la conversation. C'est « à quoi sert cette étape ?» Et « quel est le livrable que vous voulez obtenir à la fin ?»
Donc la première étape s'appelle frame, qui veut dire cadre en français, et celle-là, elle vise à définir la fin du projet. Elle sert à essayer de clarifier pour là où les personnes qui sont en train de mener cette activité de discovery, à quoi est-ce que le succès ressemblerait, et on le définit de deux manières. On le définit en termes de métrique de succès et on insiste sur le niveau de précision qu'on cherche à donner à cette étape-là. Donc c'est par exemple, on se dit, tiens, je cherche à augmenter le taux de conversion de plusieurs étapes. Ok, mais aujourd'hui, quel est le taux de conversion? Et on cherche à l'emmener à quel niveau? Juste dire, je cherche à augmenter le taux de conversion, ça semblerait dire à l'équipe qui travaille dessus que augmenter le taux de conversion de 0,1% serait un succès. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, c'est très différent de l'augmenter de 10% ou de 100%. Donc, avoir ce niveau de précision-là, ça fait partie du livrable. Et l'autre élément qu'on cherche à définir à cette étape-là, c'est ce qu'on appelle la métrique de damage control. Et là, on force le projet à être clair sur qu'est-ce qu'on est prêt ou pas à heurter comme autre métrique. Donc, peut-être qu'on va améliorer le taux de conversion, mais on va faire baisser le panier moyen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et ça, c'est des discussions qu'on force l'équipe à avoir très très tôt dans le projet.
Il me semblait qu'il y avait aussi un troisième facteur qui était la time box. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre en compte aussi dans cette conversation-là ou c'est plus lié au contexte business ou autre?
En fait, le time box, pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est de définir la quantité d'efforts qu'on va mettre dans ce travail de discovery. Et la raison pour laquelle on le définit à ce moment-là, c'est un, parce que ça va dicter la quantité de temps qu'on va passer dans toutes les autres étapes. Mais en réalité, c'est qu'elle doit forcément être cohérente avec l'ambition de succès qu'on vient de définir. Si on se dit qu'on veut doubler le taux de conversion et qu'on est prêt à y consacrer 2 jours de travail, ça semble complètement irréaliste. Donc, cette conversation-là, elle est extrêmement utile tout au départ pour cadrer les autres étapes du projet.
Très bien. Et du coup, sur quoi, plutôt première question, là, qui travaille sur ces success metrics? Est-ce que c'est, donc j'ai bien compris qu'il y avait toujours un travail PM designer. Est-ce que le marketing rentre aussi dedans? Est-ce qu'il y a les devs qui rentrent aussi dans cette réflexion-là?
Alors, ça, honnêtement, dans le livre, nous, on prescrit rien de tout ça.
Okay.
Parce que je peux être fondateur d'une nouvelle startup et je suis tout seul et ça marche quand même, etc. Donc, on n'est pas prescripteur. Après, effectivement, ça va être quelqu'un qui va être confortable avec l'idée de définir ces éléments-là. Mais ça dépend plus du profil de chaque personne que du métier. Il peut y avoir des designers qui ont un énorme appétit pour ça. Il peut y avoir des product managers qui ne sont pas complètement à l'aise avec certains de ces sujets. Donc, souvent, ce qui rentre en fait en jeu, c'est qu'est-ce qui fait que ce projet est même en train d'avoir lieu. Et c'est rarement le fruit du hasard. Il y a forcément quelque chose qui dépasse ce projet-là dans l'entreprise, qui a donné naissance à ce projet-là. Et donc là-dedans, il y a forcément beaucoup, beaucoup d'indices qui nous disent la raison pour laquelle on va bosser dessus.
Du côté des designers, on parlait tout à l'heure du fait que chacun pouvait avoir une force particulière, hein, si on se concentre juste sur le product manager et le designer. Et là, cette étape frame, dans des équipes constituées un peu larges, elle peut ressembler à une étape dédiée au product manager. Mais en fait, c'est une énorme opportunité aussi pour les designers de participer à la définition de ces métriques. Parce que même d'un point de vue de la manière dont on va approcher le design, l'intention du projet, elle est clé. Alors, Rémi parlait de taux de conversion, mais on peut imaginer aussi des taux d'adoption, par exemple. Hein, j'ai envie de développer une fonctionnalité et je pense que 20% de ma cible est la cible de cette fonctionnalité. Voilà. Donc, je m'attends, si j'ai un taux d'adoption de 20%, j'ai vraiment atteint mon objectif. Ça arrive, tu vois, c'est des cas particuliers, c'est des supports pour des besoins spécifiques. Donc, ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est non, mais en fait, c'est une option mainstream. J'ai envie que toute ma cible l'adopte. Et donc là, je vise plutôt un 80% d'adoption. Bon, ça, c'est l'objectif du projet. Mais la manière dont tu vas designer ta fonctionnalité ne va pas être la même. Si tu as envie que tout le monde la voit, tout le monde soit éduqué et que ce soit hyper accessible, ou alors si c'est pour des cas particuliers. Donc, la collaboration là-dessus des designers, elle est aussi essentielle, même s'ils n'ont pas forcément l'évidence que c'est le cœur de leur activité. En fait, ça va les aider énormément.
Ça marche. Du coup, toutes ces personnes qui travaillent sur cette première étape, sur quoi elles doivent se focaliser pour atteindre cette success metrics, s'il y avait une chose à leur conseiller, sur quoi il faut se focaliser pour atteindre le livrable qui est la success metric.
En fait, l'erreur très courante qu'on voit à cette étape-là, c'est un product manager qui ne va pas vouloir définir la success metric avec précision en se disant « mais en fait, j'en sais rien ». Et c'est normal que cette personne n'en cherche rien, puisqu'on ne sait même pas quelle est la solution qu'on va implémenter. En fait, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un exercice de prédiction. On ne cherche pas à prédire ce qui va se passer. On cherche à définir l'ambition du projet. Donc, c'est ça le changement d'état d'esprit qui fait toute la différence. C'est d'essayer de se dire, on est autour de la table, avec quelle ambition ? Et donc, par exemple, si on prend un exemple de taux de conversion, l'objectif, c'est pas de savoir si ça va faire 9% ou 10% ou 11%. La question, c'est est-ce qu'on cherche à faire x10 ou x100 ou x1,5. Cette discussion-là, comme vient l'expliquer Tristan, elle est fondamentale pour toutes les personnes qui ont bossé sur le projet. Et si on cherche à faire un projet qui fait x10, probablement qu'on va se permettre d'explorer des choses qui sont complètement différentes que si on veut faire régler un petit problème marginal. Donc, c'est une histoire de définir l'ambition du projet. Et le choix d'une métrique, mais surtout le choix du niveau d'ambition d'augmentation ou d'amélioration de la métrique est important pour tout le monde. Si par exemple on veut qu'il y ait de l'acquisition de nouveaux utilisateurs liés à un projet et que l'équipe marketing elle n'est pas du tout au courant, ben c'est complètement déconnecté en fait. Donc il va falloir peut-être potentiellement prévoir un budget lié à la promotion un budget marketing lié à la promotion de cette nouvelle fonctionnalité là. Et donc voilà, l'ambition du projet est clé en termes d'état d'esprit. On cherche pas à prédire ce qui va se passer, on cherche à clarifier et à forcer la conversation auprès de tous les membres de l'équipe de se dire quelle est l'ambition qu'on a au départ.
Et donc c'est pour ça que à la fin vous dites qu'une des erreurs principales à cette étape, c'est de mal définir la success métrique.
Oui, et de se cacher derrière une excuse qui semble juste, qui est « je ne sais pas ce qui va se passer » et c'est trop tôt en fait. L'excuse souvent, c'est trop tôt pour le définir. Parce que la solution n'existe pas encore, même dans notre tête. Et je crois que c'est, pour moi, moi j'inverse complètement, c'est la manière de regarder le sujet, c'est comment peux-tu savoir quelle sera la bonne solution si tu ne connais pas l'ambition que tu y mets derrière. Et en réalité, en définissant ce niveau d'ambition-là, on élimine immédiatement énormément de solutions. Donc en fait, on est déjà en train de préparer le travail de discovery en donnant à l'équipe la possibilité de rapidement se dire ça ne peut pas du tout rentrer dans le champ de ce qui nous intéresse. Et donc, c'est des premiers filtres qui vont énormément aider à ce que ce travail de discovery ne parte pas dans tous les sens.
Donc c'est bien une ambition et pas un objectif à atteindre. L'objectif peut être différent à la fin.
Quelle différence tu fais entre les deux ?
Par exemple, l'ambition, si tu dis que c'est de faire poisson, mais qu'à la fin, je sais pas, vous vous rendez compte que ça fait x50, est-ce que du coup, ça veut dire que la success métrique a mal été étudiée au départ, ou est-ce que c'est juste qu'au cours du process, vous vous êtes rendu compte que l'ambition était peut-être trop élevée, mais que réduire à un objectif réalisable de moitié, c'était OK, et donc vous pouviez continuer sur cette voie-là ?
En fait, si on se dit que c'est un objectif x100 et qu'on fait x50, en réalité, on est dans le bon ordre de grandeur. Le problème, c'est si on se dit qu'on veut faire x100 et qu'on fait x1,1. Et en réalité, chez Blackart, on a énormément de projets dont certains visent à améliorer de manière complètement incrémentale, à peine visible, et c'est complètement OK, et d'autres qui visent à être une révolution. Ne pas être clair au début du projet crée énormément de frustration. Par exemple, si un PM pense que c'est un projet complètement incrémental et qu'un designer, parce qu'il n'a pas eu cette conversation-là, pense qu'on est en train de réinventer l'application, il va y avoir un travail de discovery qui va être complètement déconnecté.
C'est là-dessus que souvent, en tout cas dans la pratique qu'on en a eu jusque-là, les activités de discovery qui n'avaient pas ce cadre, elles partaient dans des directions qui finalement ne finissaient pas en delivery. Je crois que ça, c'est un des gros... Alors, si on fait de la discovery pour de l'éducation, pour de l'exploration, mais ça, c'est un peu exceptionnel dans les projets, très bien, on part loin. Mais ce qui se passe souvent, c'est que la discovery, elle amène à... On se permet, on se dit, on explore, on se met pas de limite. C'est très bien, mais on arrive à des choses qui, à la fin, ne partent pas en delivery parce que c'est pas en lien avec soit la faisabilité, soit la stratégie qu'on avait définie au départ. Donc, en fait, on se donne dans ce cadre-là un objectif beaucoup plus précis en se disant, là, on va pas réinventer sur ce projet parce qu'on cherche une petite incrément, ou alors là on veut tout chambouler parce qu'on a envie de doubler et il va falloir tout remettre en cause.
Ok, c'est hyper clair, c'est la question que j'avais sur cette étape là. Est-ce que vous avez un point à rajouter sur cette étape ? On passe à la suivante. Du coup la deuxième c'est observe, même question, à quoi sert cette étape et quel est le livrable à la fin ?
Alors l'étape observe, elle cherche à explorer la problématique qu'on cherche à résoudre. C'est la grande question pour beaucoup et en particulier dans le design. Mais alors, quel problème tu cherches à résoudre ? Donc, c'est ça l'objectif. L'angle qu'on adopte, alors évidemment, dans les activités, on rentre pas dans le détail parce qu'en fait, vous les connaissez pour une grande partie. C'est les interviews. Évidemment, c'est le regard sur la donnée aussi existante, bien sûr. Mais c'est beaucoup de quali, des home visits, des campagnes de téléphoniques, des observations. Voilà, toutes ces techniques qui te permettent d'aller plonger un petit peu dans la réalité des usages et se dire, mais alors quel est le vrai cas, quel est le cas fondamental, le problème fondamental que je cherche à résoudre. Et en fait, l'exercice un peu difficile, mais comme pour toutes les étapes, ça va être cet exercice de convergence, justement. Parce que des problèmes, on en trouve beaucoup. L'important, c'est plutôt de savoir quel est le problème fondamental. Alors dans le livre, on prend cet exemple de ce fameux iPod qui au moment de sa sortie avait bien moins de fonctionnalités que tous les autres existants à ce moment-là, sauf qu'il allait toucher le cœur en fait, il allait toucher juste le plaisir d'écoute et de brose à travers les titres, voilà. Mais c'était ça qu'ils faisaient avec leur roue et ça a changé beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça qui nous inspire, c'est cette recherche du cas fondamental et ce cas fondamental, on a cette petite question qu'on se pose à chaque fois, c'est what the fuck, ça c'est la question. Et fuck, c'est FUC, c'est le first use case. Donc la question à laquelle on va chercher à apporter une réponse, c'est what the fuck, quel est le first use case auquel on a envie de s'intéresser.
Et justement, le first use case, ça prend quelle forme ?
Alors, la forme du livrable, c'est essentiellement une phrase à trous, Voilà, à remplir. Voilà, je suis un et je cherche à, mais j'ai des problématiques. Alors, je finis par, avec, avec les stratégies de contournement qu'on connaît. Donc, c'est, on pourrait appeler ça un problem statement. Dans certaines boîtes, on parle de customer problem statement. Donc, c'est vraiment la description de la problématique qui nous semble être la problématique fondamentale à régler à travers la voix d'un utilisateur qui serait un petit peu la synthèse de tout ce qu'on aurait pu recueillir comme information.
Ça a l'air assez simple. Et pourtant, comment on fait pour éliminer tous les cas qui sont secondaires, ou en tout cas tous ceux qu'on considère comme n'étant pas le cas principal, mais qui pourraient tourner autour. Moi, en fait, en lisant le bouquin, le premier truc qui m'a sauté à l'esprit, c'est « Ok, tous les cas à la marge. » À chaque fois, quand on a un cas principal, on a des cas à la marge qui viennent. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire « Oui, mais... » Comment on fait pour passer cette étape-là du « oui, mais » qui va en fait mettre le bordel dans toute la réflexion ?
Alors, c'est exactement ça. T'as complètement raison. C'est les « oui, mais » qu'on essaye d'évacuer. Peut-être une petite précision, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Là, j'ai parlé de l'iPod avec le « first use case » qui est de se promener, d'écouter et se promener dans ma musique. On peut travailler sur des morceaux de ces use cases. Hein. On ne cherche pas toujours à définir le macro use case de ma compagnie. Hein. Donc, pour être clair là-dessus. Donc, ça peut être des tout petits use cases, mais c'est le tout petit use case qui est l'élément fondamental pour atteindre mon objectif que j'ai défini juste avant. D'accord ? Donc, il y a évidemment, pour le trouver, il y a tout ce travail d'exploration. Le livrable précédent est un premier filtre pour arriver à évacuer ces cas secondaires. C'est-à-dire qu'on va aussi se poser la question, attends, notre objectif, il est là. Oui, il y a plein de cas autour, mais quel est le cas qui est le plus lié à l'atteinte de cet objectif ? C'est pour ça, et on va le redire au fur et à mesure, hein, chaque étape apporte une brique à l'étape suivante. Et là, pour le coup, cette étape d'avoir défini une cible bien précise, elle nous aide beaucoup pour aller concentrer le use case. L'autre partie est... Tu as soulevé le sujet au début de notre conversation, c'est pas magique. Et donc, c'est pas simplement d'avoir le livrable devant nous qui va nous permettre de filtrer tous les cas secondaires. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de prise de décision, c'est un travail d'ensemble qui va faire que on va finir par arriver à converger. Et c'est la partie dure, tu le fais bien de le souligner.
En fait, c'est la partie dure parce qu'elle implique de faire un choix. Le first use case, c'est souvent, il peut y avoir une dimension quantitative, c'est-à-dire c'est quoi le cas le plus courant qu'on rencontre par rapport à la problématique qu'on a. Mais parfois, l'évidence n'émerge pas et il faut faire un choix. Et donc, ça arrive assez souvent qu'on voit des équipes se perdre dans des activités exploratoires pour éviter de faire un choix, en espérant que, mais si on fait encore un round d'interview, peut-être qu'il y a l'évidence qui va nous tomber dessus. Et parfois, il n'y a pas et il faut faire un choix. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que la majorité des projets de Discovery ne font pas ce choix-là et donc finissent par soit essayer de couvrir 40 use cases, soit beaucoup plus tard, pour des mauvaises raisons, pour des contraintes de faisabilité, par exemple, vont être réduits à devoir en choisir plein, mais alors que nous, on pense qu'il faut le choisir dès le début en se disant « on optimise pour quel cas ?» Ça ne veut pas dire que dans la partie de delivery, on ne va pas avoir à prendre en compte certains cas d'usage secondaire. Mais en tous les cas, ça veut dire que la prise en compte, elle n'est pas dès le démarrage et le cœur de la solution ne va pas être autour de tous ces cas d'usage secondaire, mais autour d'un cas qu'on a consciemment choisi.
Là encore, j'ai une question sur qui décide de ce cas, parce que je me rends compte que moi, par exemple, dans ma boîte, quand on est entre PM et designer, on est plutôt OK, ou en tout cas, on y arrive. Mais dès qu'on va intégrer d'autres personnes, par exemple les devs, on va peut-être se rendre compte que le cas n'est pas le cas auquel ils pensent, où ils vont tout de suite dire c'est trop compliqué à développer, même s'il n'y a pas de solution. Ou avec les product marketing, parfois se dire ok, mais c'est peut-être pas tout à fait ça qu'on a vu chez nos clients, ou c'est pas tout à fait ça ce qu'ils demandent. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux faire un choix dans un plus petit groupe ou un choix dans un plus gros groupe, mais avec le problème de mélanger les avis et donc de prendre encore plus de temps à la fin à trouver le meilleur scénario ?
Ma recommandation là-dessus, pour moi, ce n'est pas la taille du groupe, c'est le fait d'être clair sur qui prend la décision. Donc, qu'il y ait 15 personnes avec 15 avis différents parce qu'ils ont 15 expertises différentes, ce n'est pas un problème. Ce qui peut être problématique, c'est soit si on n'est pas clair sur qui va prendre la décision, ou si on est clair sur le fait que c'est il faut l'unanimité des 15 personnes pour prendre la décision. Ça, c'est un peu les écueils. Mais s'il y a une personne qui est désignée, et ça peut dépendre de la culture de l'entreprise, ça peut dépendre du projet, ça peut dépendre de la personnalité des personnes. Donc moi, j'aurais du mal à prescrire qui doit prendre la décision.
Et par exemple, chez Blablacar, sur un projet,
Cette étape-là, honnêtement, c'est une étape où ça peut vraiment dépendre du sujet. Ça peut être le product manager ou ça peut être le designer. Là, pour le coup, en fait, la méthode, elle ne prescrit pas ça.
Okay.
Et donc, moi, j'accorde beaucoup d'importance à, par exemple, à la liberté qu'un product manager et un designer ont pour décider comment est-ce qu'ils bossent ensemble. Et en réalité, bien sûr qu'il y a des différences fortes en termes de rôle, en termes d'expertise, mais n'oublions pas qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont en commun. Et donc, si une paire PM designer choisit différemment de gérer cette étape-là et de donner la décision à l'un ou à l'autre par rapport à une autre équipe, moi, j'y vois pas d'inconvénient.
Ok, mais par contre, c'est une personne qui doit être décidée. Enfin, à quel moment on établit que c'est cette personne-là qui décide, qui tranche à la fin ? Est-ce que c'est à chaque étape cette personne peut changer ou c'est une sorte de guide suprême de la méthodologie qui, sur les 7 étapes, va décider à la fin, pour chaque étape ?
Les deux sont possibles. Ouais. J'emploierais sûrement pas le terme guide suprême,
non,
parce que je pense que c'est surtout un gros fardeau de choisir. Et donc je pense que c'est difficile et c'est une vraie responsabilité, mais on peut imaginer une personne qui a la responsabilité, une fois que toutes les points de vue ont été entendus, de trancher pour avancer. Soit on peut décider au début du projet que selon les étapes, ça sera différentes personnes en fonction de leur expertise, les deux peuvent fonctionner.
Ok, très bien. Dernier point sur cette étape là c'est quelles sont les erreurs à éviter?
L'erreur classique à éviter, c'est de ne pas choisir. Et bien sûr que le template qu'on propose force à choisir, mais si on a peur de ce choix-là, on va être tenté de définir le first use case de manière très générique pour s'assurer qu'il n'y a personne qui est laissé de côté dans tous les utilisateurs qu'on a rencontrés. Et donc ça donne un cas d'usage vague et du coup pas très utile pour les étapes d'après. Donc c'est ça un peu l'erreur à utiliser. Normalement, il faudrait qu'on soit capable de mapper le first use case qu'on a défini avec une personne réelle qu'on a rencontrée et de se dire, voilà, là, cette personne-là, Jean-Michel, il correspond exactement à ce qu'on vient de marquer ici.
Vous n'en parlez pas dans le livre, je crois. Vous avez des personas qui sont déjà préétablis qui vous permettent justement de déterminer cette personne-là pour avoir un cas rattaché à un des types d'utilisateurs que vous avez chez vous?
Alors, chez Blablacar, non, mais si c'est le cas dans d'autres entreprises, ça, c'est parfaitement compatible. Oui.
Ça marche.
Il y a une des activités dans le flow d'Observe qui est de créer une sorte de persona. On fait ce qu'on appelle les empathy cards. Et il arrive parfois que le first use case soit incarné par une de ces personnes en particulier. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'en général, l'équipe a rencontré cette personne-là. Elle fait partie de l'équipe un petit peu. Donc, on fait l'effort de prendre des photos, on fait l'effort de laisser les photos sur les bureaux. Et donc, on a des utilisateurs un petit peu, tu vois, qui, puis au fur et à mesure du temps, la mémoire se transforme un peu et ils deviennent un petit peu l'incarnation de ce first use case. Donc, dans ces cas-là, on a quasiment un persona qui émerge naturellement dans le projet.
OK. On passe à l'étape suivante. OK. Claim, donc déclarer. Encore une fois, à quoi sert cette étape et quel est le livrable?
Alors, ça, c'est. Je crois pour le coup, alors c'est peut-être l'étape la plus surprenante ou la plus nouvelle.
Je confirme.
Dans le framework et elle apporte énormément de valeur. Cette étape-là, elle est venue de notre conviction que le produit et le marketing, ils étaient indissociables d'une certaine manière. Moi, en tant que designer, j'adhère pas beaucoup avec cette idée que. Qu'un design, c'est comme une blague. Si on doit l'expliquer, c'est que c'est pas bien. J'adhère pas beaucoup avec ça. Je crois beaucoup que l'éducation, elle est fondamentale dans l'adoption des fonctionnalités, que l'écho avec ma problématique, elle est fondamentale et qu'on n'est pas simplement dans un outil d'utilisation, mais on est dans une réponse à une problématique qui n'est pas uniquement l'outil lui-même. On en reparlera dans une étape suivante, Mais voilà, je suis assez convaincu que sans l'éducation, on loupe un vrai levier pour le succès du produit. Donc cette étape claim, c'est l'idée qu'il faut réfléchir au positionnement de cette fonctionnalité ou de ce produit très tôt dans le processus de conception, avant même d'avoir une solution. Parce qu'en fait, on n'est pas forcé de parler de la solution quand on pitch la réponse au problème. On peut simplement s'assurer que, en fait, on a trouvé le positionnement, la bonne réponse au bon problème qu'on a identifié. Donc cette étape claim, ça va être un travail. Alors évidemment, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être un travail individuel. Je suis un chef d'entreprise, je réfléchis à mon positionnement. Ça peut être un travail collectif. Les équipes product marketing sont généralement très friandes de participation à cette étape-là. Et on va aller travailler le positionnement avec toujours un point de vue utilisateur. Donc dans les activités, on va avoir par exemple le fameux press release d'Amazon, qui est vraiment une activité fantastique. De la même façon, hein, Amazon demande à ses product managers d'écrire un press release, donc la coupure de presse, l'annonce presse de la sortie de leur fonctionnalité avant d'avoir commencé à créer leur fonctionnalité. Donc c'est le même esprit. Cette press release, on ne l'utilise pas comme livrable parce que pour nous, elle n'était pas encore assez convergente. Par contre, c'est un excellent exercice pour animer un focus group, par exemple. Là, on regroupe 8 ou 9 personnes, clients cibles, proches du first use case, avec toujours notre objectif en tête. Et on leur présente la coupure presse avec le titre, l'annonce, avec des fois une FAQ. Et là, ça génère des discussions fantastiques. Et on se rend compte que finalement, c'est assez pour générer des discussions et des projections. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, le livrable, c'est maintenant l'effort de convergence qu'on met en œuvre, c'est d'écrire le tweet de lancement, qu'on appelle le launch tweet. Donc, on a 280 caractères pour écrire le fondamental de cette fonctionnalité. Seth Godin, le gourou du marketing, il disait à quelques détails près, il devait dire quelque chose comme si vous n'êtes pas capable de pitcher votre fonctionnalité en 8 mots, vous n'avez pas de fonctionnalité. Et je trouve ça intéressant. Alors, 8 mots, c'est très, très difficile. Ouais. Mais un tweet, c'est un vrai exercice. Et on se rend compte qu'en l'écrivant, chaque mot doit avoir une place et une raison d'être. Et c'est ça aussi la force de la convergence, c'est de vraiment aller vers l'essentiel et il n'y a plus de superflu, on est vraiment sur le fondamental.
Je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Parce qu'en fait, cette étape-là m'a l'air plutôt claire, en fait. Elle a l'air assez simple, en tout cas, dans la compréhension de l'idée. C'est effectivement la seule question que j'avais à vous poser à ce niveau-là, c'est quoi vos recommandations pour y réussir à écrire en 8 mots, une solution à un problème, non pas une fonctionnalité, désolé. Comment c'est... L'exercice a l'air intellectuellement extrêmement compliqué. Et encore une fois, j'imagine qu'en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la salle ou des rôles, ça prend plus de temps ou ça doit être plus compliqué. Moi, je le vois quand on essaie déjà de déterminer un mot avec l'équipe produit sur une interface, c'est la galère. Alors là, peser 8 mots pour vraiment aller dans la bonne direction, ça m'a l'air très très compliqué. Comment, c'est quoi les conseils et les recommandations pour vraiment faire ça de la manière la plus fluide et la plus pertinente possible?
Alors, c'est un tweet. C'est un peu plus de 8 mots, tu peux. Mais tu as raison, c'est très condensé. Je crois que, en tout cas, il faut comprendre que ce qu'on attend, c'est l'articulation entre le problème et la démonstration qu'on a compris votre problème et qu'on veut y apporter une solution. D'accord ? On n'a pas la solution encore. Donc, on ne va pas aller dans le détail en disant « Mais en fait, en faisant ça, vous allez pouvoir ci, vous allez pouvoir ça. » C'est un petit peu le « Je vous ai compris. » Mais celui-là, il faut qu'il fasse écho. Donc, généralement, on va réarticuler une partie du first use case. On va prendre le mot-clé, tu vois, cette espèce de truc où on se dit « Tiens, quand je vais prononcer ce mot-là, je vais activer l'émotion du problème chez mon interlocuteur. » Et le mot qui va y apporter une réponse réconfortante, une réponse rassurante. On pourrait presque, avec ces deux mots, se dire, voilà, je soulève le problème et je montre à quel point je l'ai compris, ce problème. Donc là-dessus, on arrive en fait à converger fort en se disant, mais en fait, ça peut tenir en vraiment très peu de mots. Puis après, tu crées la phrase autour pour que ça prenne la consistance. Mais on aurait presque pu aller jusqu'à cet exercice de se dire un mot pour chaque, parce que c'est vraiment problème et réponse qu'on cherche à avoir.
Peut-être parce qu'on discute avec toi et qu'on est dans le domaine de la santé. Prenons un exemple de, on apporte une solution à quelqu'un qui a des maux de tête. Si je devais en faire une publicité, je ne parlerais pas de la composition de la molécule. Je parlerais, un, du mot de tête. Et est-ce que c'est mot de tête ou migraine ou un autre mot? Et puis ensuite, du soulagement. À quoi ça ressemble, la description du soulagement? Et peut-être qu'il peut avoir dans, après ce tweet-là, un élément qui va crédibiliser le fait qu'on a bien apporté une réponse à cette question-là. Mais on voit bien que là-dedans, comment est-ce que l'aspirine il est créé, n'a aucune importance en fait. Par contre, et c'est là aussi où on voit la cohérence de la méthode, c'est que par contre d'avoir de la clarté à ce stade-là sur le problème et les critères que la solution qu'on cherche doit remplir vont être extrêmement utiles, encore une fois, pour les étapes d'après, tout est en temps cohérent avec les étapes d'avant, le first use case et l'objectif qu'on cherche à atteindre.
Ça résonne beaucoup en moi, ça me rappelle, pour reprendre la métaphore de l'iPod de tout à l'heure, en fait c'est exactement ce qu'ils ont fait avec la pub de l'iPod où à l'époque tous les MP3 c'était X méga, X giga, alors que l'iPod c'était 1000 morceaux. C'est un peu ça aussi l'idée qui est derrière, de se dire en fait voilà, ok.
Complètement.
Ce qui du coup fait une transition trouvée sur l'erreur, en fait, si j'ai bien compris dans cette partie-là, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'éviter le jargon ou en tout cas de surcomplexifier avec des mots... de la tech, on va dire, ou en tout cas bien connu des designers, des PM et des gens qui sont dans la salle, mais incompris des personnes qui sont à l'extérieur.
Oui, mais plus généralement, de passer toute notre énergie à parler de la solution et des composantes techniques de la solution et de quoi elle est faite, au détriment de parler du problème et de la sensation d'être soulagé de ce problème-là d'un point de vue utilisateur. Et donc je pense que c'est ça l'erreur, et en fait cette erreur elle est humaine, elle est naturelle, c'est que le cœur du quotidien de l'équipe qui bosse sur ce sujet-là, c'est en effet effectivement d'avoir un langage technique qui est nécessaire pour trouver les bonnes solutions, etc. Mais il faut trouver la capacité de s'en éloigner, et c'est là où la forme d'un tweet, il y a une contrainte d'espace évidemment, mais il y a aussi un tweet, c'est quelque chose qui est potentiellement qui peut toucher n'importe qui, donc par définition il faut que ce soit quelque chose qui soit aussi grand public que possible.
Tristan, tout à l'heure tu parlais du fait que la press release vous faisiez une press release pour avoir des focus group et pour pouvoir discuter. Est-ce qu'une fois que le tweet a été rédigé, vous refaites la même chose ou en tout cas vous en parlez avec des utilisateurs pour voir comment c'est perçu de leur côté?
C'est une bonne question. L'avantage de la press release, en fait, c'est un exercice d'exploration. Donc, c'est vraiment ça qui nous permet d'aller recueillir l'information. Ça génère des choses. Le tweet, il est très subtil parce qu'il va plus chercher l'impact que la discussion. Donc, ce qui est intéressant à faire, quand c'est possible, c'est de recontacter les personnes qui ont participé à ces discussions. Et d'ailleurs, généralement, elles sont toujours d'accord pour le faire parce qu'elles ont contribué à construire quelque chose, et d'aller s'assurer dans le feedback qu'on a bien synthétisé, si tu veux, toutes les discussions et les éléments qu'ils ont soulevés. Voilà. Il y a un point, et là, quand tu le dis, que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on pourrait même, et ça, on ne l'a pas encore fait, imaginer une sorte d'AB test quanti là-dessus, aller pré-lancer des tweets sur des populations et voir un petit peu à quel point ça réagit. Ça, on n'a pas creusé ça, mais c'est une idée.
Est-ce qu'il y a d'autres points à voir sur cette étape?
Je crois qu'il y a un point intéressant, c'est que quand on fait bien ce travail, le go-to-market derrière, il est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est plus pour les gens du marketing, hein, quand cette étape de inbound, on appelle, a été bien faite, en fait, le outbound derrière, ce go-to-market, il est beaucoup plus simple. Il y a encore beaucoup trop de cas où on construit la fonctionnalité et puis on contacte le marketing pour voir avec eux comment ils vont aller pitcher ça. Je crois que de le faire très tôt, ça a de la valeur pour tout le monde. Et ça a aussi de la valeur pour l'activité de conception de design. Parce que dans cette activité de rédaction du tweet, on va chercher les mots-clés, on va chercher l'intention. Et cette intention-là, elle va nécessairement se refléter dans l'expérience, dans le choix des mots de l'expérience. Donc, concrètement, quand on fait ces focus group avec le press release, les personnes responsables de la rédaction du contenu, elles sont essentielles à poursuivre ces moments-là. Parce que c'est là où va émerger le vrai mot. Tu vois, les vraies façons de réfléchir de l'utilisateur vis-à-vis de ça. Donc, pareil, ça, c'est des sources d'alimentation sur les activités suivantes de design et de go-to-market.
juste un exemple d'A-B test de tweet, ou en tout cas d'idées très très similaires. Il y a des auteurs de livres à succès qui font sous forme de Google Ads des A-B tests de pitch de leurs livres pour en définir la couverture et pour en définir le titre, le sous-titre, etc. C'est pas une technique qu'on a employée pour notre livre, peut-être qu'on aurait dû parce qu'on se pose encore des questions, mais en tous les cas c'est exactement cette idée là et en fonction de juste du pitch qui résonne le mieux, et ben ça devient le produit. Et donc c'est un très bon exemple de la capacité de définir en fait l'appétence d'une tagline et même de la mesurer et la comparer.
C'est hyper intéressant. Parce que nous aussi, comme tu le disais Tristan, nous on a parfois des problèmes à communiquer avec le marketing et justement de savoir quand est-ce qu'on doit les intégrer, quand est-ce que, etc. Et je trouve que avec le recul, cette troisième étape est vraiment un point de convergence qui est hyper important, voire nécessaire pour aligner tout le monde sur ce point-là.
Peut-être juste rebondir sur un détail que tu viens de dire, c'est que le sujet de convergence, il est aussi convergence effectivement des différentes expertises et que les livrables qu'on a définis aide énormément à ce que tout le monde d'un seul coup parle un même langage. C'est pour ça que dans le livre, nous, on n'insiste pas beaucoup sur les différents rôles à jouer, puisque ces livrables-là, les 7 livrables, ils sont compréhensibles par n'importe quel métier qui pourrait être impliqué et visent justement à faire se parler des personnes qui parfois travaillent un petit peu en silence.
Top. Quatrième étape, unfold, qui veut dire se dérouler. Là encore, à quoi sert cette étape et quel est le livrable à la fin?
Donc là, ce qu'on cherche à faire à cette étape-là, c'est un peu de prendre du recul et d'essayer d'identifier quels sont ce qu'on appelle les 5 touch points, donc les 5 moments clés de l'expérience qu'on va proposer. Et là, il y a plusieurs idées derrière. Une idée, qui est directement liée au sujet qu'on vient d'évoquer, c'est que souvent, la première étape de l'expérience avec un service ou un produit ne commence pas par le produit ou par le service, mais par sa promotion. Donc parfois, la première fois qu'on va être exposé à un produit, c'est parce qu'on a vu une pub à la télé. Donc c'est ça en fait le premier point. Peut-être que parfois le premier point, dans le covoiturage, on l'a beaucoup vu, c'est du bouche à oreille. C'est un ami qui m'a parlé de son expérience en covoiturage parce qu'il venait chez moi et il n'est pas venu en train ou en autocar ou en voiture, mais il est venu en covoiturage. Et c'est ça mon premier point d'expérience. Et donc, cette étape-là, elle vise à se détacher du produit qu'on est en train de construire ou du bout de produit qu'on est en train de construire pour identifier les autres endroits, les autres moments qui peuvent être déterminants pour avoir l'impact qu'on espère avoir. Et parfois, ça peut être peut-être plusieurs endroits dans le produit. Donc, on n'est pas obligé d'identifier que des endroits en dehors du produit. Mais en tous les cas, on essaie de un, dézoomer et deux, prendre le point de vue utilisateur qui va nous permettre d'identifier peut-être des opportunités d'avoir un impact qu'on n'aurait pas eu spontanément si on n'avait pas fait cet exercice-là. Donc le livrable, c'est donc les 5 touch points. C'est 5 moments où on pense qu'on pourrait avoir un impact. Et encore une fois, on revient toujours à l'impact, c'est celui qu'on a défini à la première étape. Dans le cadre du use case, qui est le first use case, en cohérence avec le claim qu'on a défini juste avant.
Première question un peu naïve, pourquoi 5 et pas 4 ou 6?
Il n'y a pas de recette mathématique derrière. La question c'est plutôt pourquoi pas 1 et pourquoi pas 10. En fait, 5, ça force à aller chercher au-delà de ce qu'on aurait fait un peu naturellement, probablement, et que au sein du produit, ça va être difficile de trouver 5 points. Donc on va dire, attends, qu'est-ce qui se passe en dehors? Est-ce qu'il y a un SMS qui est envoyé? Est-ce qu'il y a une publicité qui peut avoir lieu? Est-ce qu'il y a une relation avec le service clientèle? Est-ce qu'il y a un moment où il se passe rien? Mais en réalité, dans la tête de l'utilisateur, il y a un moment d'anxiété. Enfin, donc ça force à aller au-delà de ce qu'on ferait naturellement. Pourquoi pas 10? Parce qu'on pense que toutes les étapes ont besoin de convergence, donc de faire des choix. Donc 5, ça nous semblait le bon équilibre entre ces deux tensions.
Et du coup, cette étape-là, en quoi elle est différente, par exemple, d'un user journey?
Alors, en fait, ça se rapproche complètement de ça. Peut-être que la petite différence avec ce que parfois on appelle user journey, c'est que on décide de mettre l'emphase sur certains moments en particulier. Donc, c'est pas tant le travail exhaustif qui consiste à mapper tout ce qui va se passer, même si c'est probablement nécessaire comme activité pour arriver à ces 5 touch points. Mais il s'agit de se dire, parmi tous les moments où on pourrait décider d'avoir l'impact, lesquels sont les plus intéressants, sur lesquels on devrait le plus travailler. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que dans une des étapes d'après, on va être amené à justement, à un moment, il va bien falloir définir à quoi ressemble l'expérience à tous les instants. Mais d'avoir défini auparavant lesquels étaient clés va avoir un énorme impact, par exemple pour un designer, sur le temps qu'il doit passer sur chacune des étapes. Et peut-être que tel écran qui est complètement anecdotique, il faut peut-être réutiliser une solution qu'on a déjà utilisée dans l'application qui fait le taf, alors qu'un des 5 éléments, peut-être qu'il va falloir être beaucoup plus créatif et inventer une toute nouvelle solution qui n'existe pas encore. Donc ça permet de savoir où est-ce qu'on va mettre le focus.
Ok. Donc si je comprends bien, on n'a pas encore de solution, mais on essaie déjà de comprendre tous les endroits où l'utilisateur a un ou un autre une interaction avec soit le produit, soit la marque, soit la possible solution.
En fait, il y a un truc qui moi m'a perturbé quand on s'est mis à écrire le livre, c'est que je ne retrouvais pas à quel moment est-ce qu'on identifiait la solution. Il n'y a pas d'étape qui est on choisit la solution. Enfin, la solution, elle émerge là. Et en fait, c'est parce que je crois que ce moment miracle où il y a une solution qui émerge, on le fait de manière beaucoup plus progressive. Et que, en réalité, déjà, quand on définit le cas d'usage, on est déjà en train de réduire la solution, ce qu'elle pourrait être. Quand on définit le claim, c'est pareil. Et là, quand on définit les touch points, en fait, des fois, la solution, c'est peut-être la somme de 3 moments différents qui ont changé. Et ça y est, c'est la solution. Mais si on s'est dit, tiens, on a un problème, il faut qu'on cherche une solution, ben, on ne l'aurait pas regardé de la même manière. Donc, en fait, ça c'est déjà une manière de répondre au problème et de commencer à faire émerger naturellement la solution. Donc, en fait, on est déjà à ce stade-là, en train de la faire émerger, sauf que c'est un mélange de... On est encore en train de se dire, mais où est-ce qu'on pourrait avoir de l'impact, tout en commençant un peu à dire, mais en fait, à quoi va ressembler la solution.
Une grande vertu de cette activité de d'Unfold, c'est de faire réaliser aussi à l'équipe, et en particulier côté produit, qu'il y a des leviers de succès qui sont bien en dehors du produit. Et ça a énormément de vertus. Chez BlaBlaCar, une des expériences qui a amené à même un modèle d'organisation, c'était de réaliser typiquement que des emails qu'on appelle les emails automatiques, les triggers d'emails, donc qui sont liés à mon comportement dans le produit, étaient des leviers de performance absolument clés qui pouvaient avoir des impacts plus importants sur le taux de transformation que des impacts dans les pages produits elles-mêmes. Et ça, c'est un exercice extrêmement vertueux. Côté designer, on dirait que c'est le regard end-to-end où vraiment on va faire on va prendre beaucoup de recul pour voir toutes les perspectives possibles et autour de la solution.
Ok. Je rebondis sur ce que tu as dit, Rémi, parce qu'en fait, c'est exactement comme ça que je me suis senti quand j'ai lu le bouquin. C'est à quel moment on trouve la solution. Et en repréparant l'émission, quand j'ai lu une fois le bouquin, j'ai pris mes notes, j'ai relu mes notes et vraiment je suis un peu paumé entre cette 4e étape et cette 5e. J'étais là, genre, j'ai l'impression que la solution est apparue. Mais j'arrive pas trop à comprendre comment. Et en fait, en relisant, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que ça découle naturellement. Et donc, du coup, si ça vous va, on va passer à la 5e étape, qui est style, donc qui est volée. Et donc, du coup, ben, j'aimerais bien comprendre à quoi elle sert, cette étape, et encore une fois, ben, quels sont les liens.
Alors, l'étape style, c'est l'étape pour le lecteur, peut-être poil à gratter. En tout cas, jusqu'ici, on a eu un débat plutôt convivial et bien aligné. l'étape style, c'est cette idée qu'on crée rien et qu'on ne fait que réutiliser des parties existantes, et c'est en les réassemblant qu'on fabrique quelque chose de nouveau. Donc c'est un petit peu une... Alors, pour la partie poil à gratter, c'est un peu cette idée de dire... ne réinventons pas la roue, arrêtons de croire que parce qu'on est designer ou product manager, on va chaque fois révolutionner les choses parce que les autres font mal et que nous, on va faire très bien. C'est un petit peu ça qu'on essaye. C'est pour ça qu'on l'appelle style. Hein, pudiquement, on appelle ça de l'inspiration. Mais factuellement, c'est une sorte de vol. Et donc, on va demander aux équipes à ce moment-là d'aller regarder ce qui se passe autour, donc faire du benchmark, pour aller identifier les patterns qui semblent complètement pertinents à être repris dans notre solution. Alors, dans le livre, je prends un exemple, mais je crois qu'il parle bien, c'est cette idée de voitures. Hein, quand tu, je ne sais pas si tu loues des voitures, Gauthier, mais moi, j'en loue régulièrement. Et quand je loue une voiture, eh ben, je sais la démarrer. Je sais sortir du parking, je sais aller au feu rouge. Ça, je sais très bien faire. Par contre, une fois sur deux, il y a une radio insupportable dans la voiture que je n'arrive pas à éteindre. Et donc, la raison, elle est simple. Les constructeurs automobiles, ils réutilisent des patterns existants dans tout un tas de domaines, et tant mieux pour la sécurité routière. Et ils ont des ambitions d'innovation fantastique à chaque modèle sur le système audio, voire le système GPS. Et voilà ce qui se passe. Et moi, je loue des voitures et je crois qu'on est nombreux à ne pas la louer pour le bonheur de découvrir une nouvelle interface audio. Ça m'est complètement égal. Moralité, qu'est-ce qui se passe maintenant? La meilleure solution, c'est de brancher ton téléphone, d'utiliser ton app Spotify pour gérer la musique et tout le monde est content. Et ça n'enlève rien à la valeur de la voiture. C'est juste que cette espèce de tentation de recréer des choses, en fait, elle flatte plus un ego des concepteurs qu'un besoin des utilisateurs. Donc, pour revenir à l'activité, on va aller chercher ces fameux patterns, hein, ce fameux clignotant pédale d'accélérateur, et on va les remettre dans notre produit. Alors, ça peut être typiquement le fonctionnement d'une carte. Hein, tu as envie d'intégrer de la géolocalisation dans ton système. Bon, ben, pour presque ne pas caricaturer, on prendrait Google Maps et on amènerait ça aux équipes dev en disant, ben, voilà, grosso modo, en fait, c'est ça qu'on veut en termes de comportement. Ça, c'est la garantie que les gens qui vont venir sur mon produit, ils vont retrouver la map, ils vont savoir comment l'utiliser. Ils ne vont pas dépenser d'énergie à se retrouver dans ce nouveau pattern qu'on aurait inventé. Par contre, évidemment, les éléments nouveaux, ceux-là, il y a énormément d'énergie à mettre dessus. Et c'est aussi une façon de décider à quel point l'équipe va focaliser son énergie. Tout ce qui existe déjà et qui fonctionne, on le reprend. Ce qui est nouveau, on met toute notre énergie dessus. Et donc, cette activité-là, ben, on va la proposer. Là, j'ai beaucoup parlé de design parce que c'est mon cœur d'activité, mais c'est la même chose pour le marketing, typiquement, le product marketing. Ça, si l'équipe fait partie, dans l'équipe, il y a un product marketeur qui va aller chercher quelques accroches qui lui semblent absolument fantastiques. On y va. Le contenu aussi, parce qu'on a souvent tendance à l'oublier un petit peu dans le process. Les content designers qui vont trouver quelques mots-clés qui leur semblent parfaits ou des tourneurs de phrases. Voilà, donc tout le monde est invité à participer à cette activité de vol en équipe pour aller récupérer les patterns qui vont constituer une partie de l'expérience.
Tu as couvert un grand nombre de questions que j'avais sur ce point-là. Le dernier qui me reste, c'est, je pense, le seul point où j'étais un peu perdu dans le livre, c'est est-ce que c'est... Alors, il s'agit de cinq éléments, cinq idées qui sont reprises, c'est ce que vous dites dans le livre. Est-ce que ces cinq idées doivent être en lien avec les touchpoints ou est-ce qu'elles sont en lien avec d'autres éléments?
Alors, ces cinq idées, elles sont en lien avec l'expérience qu'on a envie de proposer à nos utilisateurs. Donc, si tu veux, elles peuvent être liées à un touchpoint. Et effectivement, si tu as mappé les cinq moments clés, mais qu'en fait, ton idée, elle est en dehors de ce flot d'expérience, ça marchera. Enfin, c'est très étrange. Alors, bon, maintenant... On n'oblige pas un mapping, surtout que tu peux avoir trois idées qui vont être concentrées sur un point particulier et les autres davantage dispersées. Donc, on ne fait pas cet exercice de mapping. Par contre, si c'est complètement déconnecté, c'est étonnant et il va falloir se poser cette question sur, attends, est-ce qu'on a bien imaginé le bon parcours? Parce que là, on est en déconnexion.
D'accord, donc ça veut dire qu'on peut se concentrer sur plusieurs solutions ou en tout cas plusieurs idées sur un touchpoint et se dire il y en a un qu'on laisse de côté pour l'instant.
Oui, oui. En fait, on les appelle les gold nuggets. Hein, c'est les pépites d'or. Et c'est vraiment ça. Enfin, quand tu pratiques cette activité de recherche de pépites, tu te rends compte qu'il y a une... C'est un petit peu comme les activités créatives en fait. Et c'est pour ça que j'aime tant cette activité et que je trouve dommage qu'elle ait peut-être une couche... indésirable ou comme si on était en manque de créativité parce que c'est fantastiquement créatif de regarder des tonnes de produits et des tonnes d'écrans pour aller chercher une espèce de moment d'inspiration en se disant mais attends ça va être parfait dans ma réponse. Par contre, ça va aussi avec l'imprévisibilité de ces choses-là. Donc de se dire, attends, je veux en trouver un par touchpoint, c'est compliqué. Il faut creuser et aller chercher celles qui font vraiment beaucoup d'écho. Donc pour répondre à la question, oui, on peut avoir 2 ou 3 gold nuggets sur une page où on se dit, mais là, ça va tout changer.
Ok, et donc ça veut dire que si tu n'arrives pas à en trouver sur certains autres points, c'est là où tu vas devoir creuser et fouiller pour trouver des solutions qui n'existent pas encore.
Oui, et on va de toute façon devoir créer plein de choses. Hein. C'est-à-dire que quand bien même j'ai une pépite sur, allez, disons un email qui fait partie de mes touchpoints, je veux dire, tiens, cet email-là, pour l'éducation, il est parfait et je vais l'utiliser comme touchpoint. Bon, peut-être que là-dessus, tu as une tournure de phrase. Tu dis, attends, là, ils l'ont fait, eux, ça cartonne, c'est super bien pensé, je reprends cette tournure de phrase. Mais alors, bien sûr que la tournure de phrase, ce n'est pas la seule chose qu'il va falloir que tu imagines. Donc oui, dans tous les cas, il va falloir imaginer plein de choses. Et si on revient à cette idée des constructeurs automobiles, ils imaginent plein de choses fantastiques. Hein, c'est un super métier, ces concepteurs de... Voilà. Donc, plein de choses. Par contre, les patterns essentiels, eux, on essaie de les reprendre au maximum.
Est-ce que vous voyez un autre point à rajouter sur cette étape ? Passons à la suivante. Donc, la sixième étape, c'est execute, exécuter. Là encore, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'on a à la fin ?
Alors, elle sert à commencer à ce que la solution qui a émergé naturellement prenne vie. C'est pour ça que ce qu'on a à la fin, c'est deux choses. Une qui est très visible, l'autre qui est un peu plus invisible. Ce qui est très visible à ce stade-là, comme livrable de cette étape-là, c'est un prototype. Un prototype de la solution sur laquelle on commence un peu à converger. La partie moins visible, c'est les hypothèses, 3 hypothèses principales qui sont derrière ce prototype-là. En réalité, ce prototype-là, à ce stade, c'est un pari, plutôt très informé au vu de tout le travail qu'on a fait avant, mais c'est un pari. Et donc, ce pari repose sur quelques hypothèses. On fait l'hypothèse que si à tel endroit de l'expérience, on propose telle interface, par exemple, on parie sur le fait que l'utilisateur va réagir de telle manière et que ça va résoudre une partie du problème que cet utilisateur avait. Donc c'est ça, le principe d'exécute, en fait, c'est de se dire, ça y est, on a rassemblé tout le matériel nécessaire. Maintenant, il faut combiner tout ça pour créer quelque chose qui soit aussi cohérent que possible et qui résolve la raison de ce projet. Et en fait, c'est une étape qui dans laquelle on commence à rentrer souvent dans un niveau de détail beaucoup plus fin. Il y a beaucoup d'étapes précédentes qui visent à garder une certaine hauteur, à définir les choses de manière assez macro. Là, on rentre dans le détail et on essaie de faire en sorte qu'il y ait un maximum de détails qui soient justes. Et donc, le prototype, en termes de fidélité, peut dépendre de ce qu'on a défini tout au début du projet, à savoir quelle est l'ambition qu'on a. Donc, est-ce que c'est un projet qu'on va faire un peu rapidement ou sur lequel on va passer beaucoup de temps. Donc, on peut avoir à la fin un prototype de tellement haute fidélité qu'un utilisateur qui sera exposé ne verra même pas la différence avec le produit réel. Ça, c'est, il y a certains projets où chez Blackard, c'est exactement ce qu'on cherche à faire pour exposer les utilisateurs à un produit qui va leur permettre d'avoir le comportement le plus naturel possible. Mais en réalité, c'est beaucoup de travail de faire ça. Donc, il y a plein d'autres projets où ce qu'on appelle un prototype, ça peut être un prototype fonctionnel, mais beaucoup moins élaboré. Voire un prototype, ça peut être un écran. Un dessin sur un bout de papier. En fait, le niveau de fidélité dépend du projet et du niveau d'ambition qu'on y met. Mais en tous les cas, il y a bien quelque chose qui permet à notre idée de solution de prendre vie pour qu'un utilisateur puisse y être exposé et y réagir.
Et quand vous travaillez à cette étape-là, dans quel sens vous orientez tout ça ? C'est-à-dire, il y a 3 hypothèses et il y a une maquette. Est-ce que c'est d'abord la maquette et donc de cette maquette, on va établir des hypothèses ? Est-ce qu'on établit des hypothèses en amont ? Parce que j'imagine que, moi je le vois, on peut proposer plusieurs solutions, elles ont toutes une hypothèse différente. À un moment, on va décider d'aller vers telle ou telle solution et donc telle et telle hypothèse. Comment ça se passe à ce moment-là de se dire, on mise sur telle hypothèse mais sur telle maquette ou comment ça s'organise ?
C'est un vrai processus itératif, hein, cette étape. Mais elles le sont toutes, mais celle-ci en particulier. Et on a appelé ça execute. C'est très en lien. Et pour les designers ou les product managers qui nous écoutent, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la phase de design. Alors, il y a toujours un débat sur le mot design, etc. Mais voilà, donc là, on rentre dans cette phase d'itération très forte. et les choses vont se construire au fur et à mesure. Il y a une activité des design jams que tu as dû voir dans le livre, qui est un peu fondamental dans ce parcours-là, qui est en fait une activité quotidienne de Divert Converge. Donc là, pour le coup, le nombre de diamants, là, c'est une myriade de diamants, parce qu'il y en a un par jour, où on va explorer, décider. Donc les deux vont s'alimenter, vont se construire au fil du temps. On fait aussi des tests sous forme de guérilla tests à ce moment-là. Donc, on a des idées, on se dit, tiens, ça, c'est peut-être bien. Allez, on sort dans la rue, on va à tel ou tel endroit. On demande des feedbacks, on revient, on reconstruit. Donc, tout ça, cette phase, c'est vraiment une phase de forte et de rapide itération pour arriver à ce proto avec ces hypothèses.
Mais ça, pour le coup, le guérilla test, c'est bien quand c'est du B2C, quand tu t'adresses, par exemple, à n'importe qui voudrait réserver une voiture dans la rue ou un covoiturage. Moi, par exemple, dans mon cas, c'est du B2B. Je ne peux pas aller voir un médecin comme ça dans la rue aussi facilement pour lui poser des questions sur telle ou telle interface. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez pris en compte et comment on peut faire à ce moment-là?
Parce oui. Alors, pour le coup, d'expérience que j'ai vécue chez Intuit, qui est une entreprise qui développe des outils de comptabilité. Alors là, il y a des experts comptables. Alors, c'est une des pistes, hein, c'est la création d'un panel. Donc là, on avait 4, 5, 6, 10 experts comptables qui étaient intéressés par le développement de notre produit. Quand je dis intéressés, c'est pas financièrement directement, mais intéressés parce que ça leur simplifiait la vie, ça leur permettait de créer une relation client, enfin, qui avaient vraiment un intérêt là-dedans et qui étaient disponibles chaque semaine dans des conférences ou conférences call ou en physique, pour être exposé à ces itérations. Et Intuit, qui est une entreprise qui est extrêmement centrée, utilisateur et très branchée sur tout ce processus itératif, ils ont résolu ces sujets-là en ayant des sélections. Alors évidemment, c'est pas la sélection extrêmement riche qu'on peut avoir dans le B2C. Ceci dit, dans la rue, tu as quand même un biais. On descend dans la rue à Paris, c'est pas toutes les rues de France qui sont représentées. Donc, il y a toujours ce biais, mais eux, ils résolvent ce sujet-là avec un panel disponible.
Une autre manière de résoudre ce problème dans le B2B, c'est aussi de réfléchir dans quelle mesure le processus de vente peut être l'occasion d'exposer certaines de ces idées-là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le B2C, mais qui dans le B2B peut être intéressant, que les discussions qui peuvent avoir lieu dans un processus de vente, peut-être qu'il peut y avoir une personne dans l'équipe projet qui peut accompagner ces équipes-là pour proposer certaines choses qui sont en cours d'élaboration et recueillir des réactions à ce moment-là.
Dernière idée pour ce domaine-là. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être si chez cardiologues, c'est les sales. Alors, c'est, encore une fois, c'est pas le proxy parfait, mais c'est aussi un vrai proxy pour obtenir des feedbacks. Alors, c'est d'expérience, c'est pas le meilleur proxy pour participer aux séances d'itération. Par contre, pour réagir à des propositions, c'est aussi un proxy intéressant. Et là, pour le coup, tu les as à disposition, a priori, pas très loin.
Je confirme, c'est ce qu'on fait. J'ai un dernier point sur cette partie-là. Rémi, tout à l'heure, tu parlais d'avoir des prototypes qui sont chez vous très avancés. J'ai reçu Nicolas Duval qui nous parlait de design system à l'époque où il bossait dessus. Donc, je mettrai le lien dans la description si vous voulez réécouter. Et je sais qu'il avait poussé le design system super loin pour simplifier le travail. La question que je me pose, c'est pour les personnes qui doivent aller plus vite. Tu disais tout à l'heure qu'on peut baisser le niveau de qualité du design, faire des wireframes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on essaye de tester quand même? Parce qu'il y a des questions d'interface, il y a des questions de flow, il y a des questions de wording, il y a énormément de choses. À quel moment on se dit je suis allé suffisamment loin dans mon prototype pour passer à l'étape d'après?
Je pense que c'est le moment de passer à la dernière étape parce que c'est là où on va répondre à cette question-là.
Ok, donc 7e étape, decide et vas-y.
En fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que l'objectif de cette dernière étape, design, c'est précisément de prendre une décision à partir de toute l'information qu'on a accumulée dans le projet, et en particulier, ce qu'on vient de créer dans la dernière étape, c'est un prototype qu'on va, dans la dernière étape, decide, exposer à notre population cible. Et en réalité, on appelle ça decide parce que c'est une décision de la part de l'équipe. C'est subjectif en fait. Il n'y a aucun test utilisateur qui se passe de manière parfaite. Ça n'existe pas. Donc en réalité, il y a toujours un niveau d'imperfectibilité qu'il va falloir décider d'accepter. Est-ce qu'on l'accepte ou pas ? Ça dépend, c'est à l'équipe de le décider, en fonction notamment de est-ce qu'on croit dans le fait que l'impact qu'on cherche à avoir et le temps qu'on consacre à ce projet-là semble être en correspondance avec ce qu'on observe en termes de perception utilisateur.
Je voulais juste comprendre un point sur cette étape, puisque effectivement il y a un test final, c'est ce que vous dites, et en quoi il est différent de tous les tests utilisateurs qu'on a fait jusqu'à maintenant à l'étape d'avant ?
Pour moi, il est différent de deux manières. C'est que là, on teste l'intégralité de la solution. Et en réalité, c'est le test final quand on décide que c'est le test final. Ce livrable, il s'appelle Go, No Go. En réalité, si la réponse de l'équipe, c'est en fait, non, on a l'impression qu'on n'y est toujours pas, parce qu'il y a une hypothèse fondamentale qui est complètement fausse. On pensait qu'en exposant les utilisateurs à telle interface, ils allaient se comporter de telle manière, et visiblement, on s'est complètement planté. L'équipe est en capacité de se dire, il faut qu'on revienne en arrière et qu'on corrige les choses. Donc en réalité, ce qu'on pensait être le test final, ce n'est pas le test final. Donc en fait, le test final, c'est celui qui permet soit à l'équipe de se dire go, en fait ça y est, on a atteint ce qu'on espérait, soit, et ça arrive parfois, de se dire on abandonne. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le meilleur effort qu'on pouvait apporter à cette intention-là, et visiblement ça ne marche pas. Et pour moi, c'est pour ça que c'est un travail de discovery, c'est qu'on est en train de découvrir la solution qui pourrait fonctionner. Parfois, il n'y a pas de bonne solution, ou alors peut-être que parfois le coût de la solution, il ne vaut pas la chandelle. Donc, ce qu'il a de particulier à ce test-là, c'est que c'est celui qui... celui qui va nous donner confiance dans le fait que ça vaut le coup d'investir dans une phase de délivrer.
Une des raisons pour lesquelles on l'a distingué aussi, c'est que en termes d'effort à mettre dedans, on est toujours dans cette idée que si t'as pas de temps, tu vas très très vite. Enfin, si c'est sur des projets où tu passes un peu de temps, les méthodes peuvent être aussi un petit peu différentes. C'est-à-dire que dans l'itération rapide, tu peux aller faire, on parlait de guérilla, hein, ou de... voilà. Si on reprend l'exemple du sales, il faut avoir un grand niveau de confiance pour se dire, en fait, mon proto, je l'ai montré à un sales, ou à 3 ou 4, ils me disent que c'est bon, on part en développement. Voilà. Donc, ça, ce que disait Rémi, c'est extrêmement important parce que c'est un niveau de confiance de l'équipe. D'accord ? Donc, si vous êtes super confiant parce que vous avez votre go, et ben go. Mais dans la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même envie dans cette étape de mettre en place un protocole de test un peu plus carré, solide que ce que tu vas pouvoir faire dans les itérations rapides. Donc on va grosso modo passer du guérilla un peu à l'arrache qui a de la valeur mais qui va vite à un test d'utilisabilité plus classique avec de la modération, avec du scénario à réaliser. Et peut-être une subtilité qui est intéressante, c'est qu'on reste sur ce parcours général et donc on inclut les touchpoints. Alors là, on peut revenir à ce sujet de touchpoints, mais les 5 touchpoints sont dans le prototype que tu vas tester. Et donc, c'est aussi des tests dans lesquels on va potentiellement commencer par un email ou déclencher un texto au milieu du parcours. Donc, tu vois, tu essayes quand même d'aller un peu plus loin dans la validation de ce fameux parcours idéal pour là avoir développé des vraies convictions. Et le sujet d'avoir une conviction d'équipe, on insiste beaucoup dessus parce que c'est des données qualitatives. Et ça, je crois qu'on le dit à pas mal de reprises dans le livre, le qualitatif, c'est extrêmement riche, mais ça ne prend pas la décision pour toi. Et donc, il va falloir la décider en équipe, c'est le go-no-go.
Rémi, j'aimerais bien revenir sur cette question-là du go-no-go, justement, tu parlais de s'il y a un no-go en se rendant compte que vous êtes allé le plus loin possible mais que ça n'a pas marché. Est-ce que c'est plutôt possible de remettre en question une étape du parcours et de se dire, par exemple, c'était pas la bonne métrique dès le départ et refaire toute la méthodo depuis le début, ou est-ce que vous passez à autre chose parce que vous avez passé trop de temps dessus, ou enfin, il n'y a pas de bonne solution, pas de bonne réponse?
Tout est possible, c'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure du projet, l'équipe apprend énormément. Et donc, c'est possible que, même plus tôt dans le projet, en fait, on a envie de revenir en arrière parce qu'on comprend mieux ce qu'on est en train de faire. À ce stade-là, effectivement, à quel point on va revenir en arrière et si on va revenir en arrière dépend du problème, si on se rend compte qu'il y a deux hypothèses sur trois qui sont justes, mais la troisième, elle ne l'est pas, peut-être que ce n'est pas un bloqueur et peut-être qu'on peut, on peut avancer comme ça. À l'inverse, peut-être qu'il y a deux hypothèses qui sont complètement fausses et qui rendent l'équipe qui mettent l'équipe dans un niveau de confiance très très faible sur la raison pour laquelle ils ont entamé ce projet-là. Et donc, après peut-être se dire, on comprend mieux pourquoi ça marche pas, et donc on va être capable de le régler, ou au contraire, on se dit, à ce stade, on a vraiment l'impression qu'on a un problème insoluble et que mettre plus d'efforts dedans ne vaudrait pas le coup, surtout en comparaison avec d'autres sujets sur lesquels on pourrait travailler.
Ok. Imaginons qu'on soit dans le cas optimum et toutes les hypothèses sont validées, tout est bon. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu chiffonné à la fin du livre, c'est de me dire, on a une maquette, on l'a testée, elle marche bien, mais en fait, à aucun moment, on a parlé de technicité, de la technique, du dev. Et je sais que parfois, on peut avoir une super solution et en fait, côté dev, c'est difficile à faire ou en fait, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous revenez en arrière ou est-ce qu'il y a une prise en compte de la technique dont on n'a pas parlé au cours de ces différentes étapes? Comment on s'assure que ce qu'on a testé et qui fonctionne sera en fait ce qu'on va avoir vraiment à la fin?
Alors, il n'y a absolument rien qui interdit l'implication dans l'équipe du projet de quelqu'un qui a une expérience technique. Et donc, cette personne-là, elle peut non seulement est exposé à toute la connaissance qui va être accumulée dans le projet, mais c'est aussi quelqu'un qui peut complètement informer les décisions qui sont prises tout le long. Peut-être que quand on choisit au départ la métrique à impacter, on va prendre en compte le fait qu'il y a une partie de la stack technique sur laquelle on peut pas travailler. Ça va peut-être moduler l'impact qu'on cherche à avoir. Quand on choisit les touchpoints, on va peut-être en choisir certains où on sait que ça va être particulièrement facile de travailler et en éviter d'autres parce qu'on sait que c'est pas possible, etc. Et donc, en fait, encore une fois, on ne définit pas qui doit participer au travail, mais la flexibilité des enjeux techniques peut varier d'un projet à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et donc, plus il y aura des contraintes de ce type-là, plus il semble pertinent de les intégrer dans tout le processus.
Là, on est arrivé quasiment à la fin du livre, on a fait toutes les étapes. Une fois que là, vous avez cette maquette et que vous êtes sûr, est-ce qu'il y a une étape d'après qui est réfléchir un petit peu aux edge cases, qui sont vraiment les cas à la marge, mais qui sont les cas d'usabilité que vous avez découverts en cours de recherche? Ou est-ce que c'est quelque chose où vous vous dites, ok, encore une fois, on le mettra de côté, on reviendra dessus plus tard parce que ça ne répond pas au first case scénario?
Pour moi, à ce moment-là, il y a deux manières de regarder ces cas-là. Soit ça fait partie du travail de delivery de les lister intégralement et de s'assurer qu'on a une réponse pour chacun d'entre eux. Ça, c'est possible. Une autre possibilité, c'est en fait de dire, mais en fait, il y a un des cas secondaires qui mériterait peut-être un autre travail de discovery à part entière. Et d'ailleurs, les deux sont compatibles. Peut-être qu'on se dit, mais en fait, il y a plein de cas secondaires. On les a pas adressés, mais les réponses sont plus ou moins évidentes. Et puis, il y en a un où on se dit, celui-là en particulier, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on pourrait l'attaquer. Et ce n'est pas un petit sujet, si on zoome dessus, on fait un projet dédié à ça. Peut-être qu'il prendra un petit peu moins de temps. Mais en tout cas, ça, c'est deux manières de répondre à ça.
Ça marche. Pour les personnes qui nous ont écoutés, qui sont allées jusqu'au bout et qui se disent qu'elles ont envie de mettre en place cette méthodologie, est-ce que vous pouvez donner un peu votre retour d'expérience sur comment vous l'avez mis en place chez Blablacar et comment vous faites pour évangéliser? Je sais que le mot fait parfois débat, mais en tout cas pour vendre la recherche et pour se dire, ok, ça va pas être un processus lourd, même s'il y a cette étape, on en a parlé au début. Comment on fait? Parce qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui ont du mal à mettre en place la discovery. Comment on intègre ça et comment on le vend?
Écoute, je crois que la clé, c'est finalement de se poser cette question. Donc la méthode, on pourrait la résumer en sept questions auxquelles il faut apporter une réponse. En tout cas, moi, c'est ce qui me semble marcher le mieux dans les premières étapes d'évangélisation. C'est de, si on reprend la première étape, de parler à l'équipe, de dire, ok, est-ce qu'on est bien clair? Est-ce qu'on est tous clairs sur la métrique que l'on cherche à impacter? Voilà. Ça, je crois que c'est le coût est à peu près nul. C'est de poser une question. Si on ne l'est pas, forcément, ça va soulever des discussions. Se dire, on n'est pas d'accord alors. Et engager vers un processus de clarification. Et c'est valable pour toutes les étapes, en fait. Est-ce qu'on est clair sur la manière dont on va la présenter, cette fonctionnalité ? Même si on ne demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire, est-ce que vous savez tous autour de la table, voir un peu comme vous allez en parler à votre compagnon ou à vos parents ? Et donc, pour moi, c'est ça, la mécanique, c'est de se poser ces questions. Ensuite, ça amène sur qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ces questions. Donc, on met en place cette mécanique d'exploration, etc. Mais c'est un processus qui est finalement assez, assez doux parce qu'il met le doigt sur des choses auxquelles tout le monde a envie d'apporter une réponse. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi avec des gens qui lancent leur entreprise ou de toutes petites équipes. On dit aucun problème. Il n'y a pas besoin de moyens, il n'y a pas besoin de temps. Juste soyez très, très clair sur le fait que vous êtes aligné et confiant sur les réponses à ces différentes questions. Voilà, ça, c'est une bonne méthode pour déclencher la discovery discipline et pour la faire grandir. Je crois que l'erreur courante, s'il fallait refaire une partie erreur courante sur cette partie-là, ce serait de vouloir tout faire d'un coup, de vouloir imposer les choses. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu que finalement la partie un peu essentielle de notre méthode, c'est 5 pages, c'est 5 livrables, c'est 7 livrables, pardon. Et c'est tout, c'est 7 pages à remplir, il n'y a pas grand chose. Le reste, c'est complètement flexible. À l'époque où on réfléchissait à un naming de cette fonctionnalité, on a beaucoup travaillé avec Tiga, hein, qui publie le livre. Et une des idées qui était venue dans nos discussions, c'était de parler d'un accordéon. Alors, c'est un peu difficile, la méthode accordéon, ça fait moins rêver, mais elle a vraiment de ça, elle a vraiment ce côté très large et très compressible. Et donc un bon point d'entrée pour la méthode, c'est la partie très compressible qui est en fait essentiellement ces questions auxquelles on veut apporter une réponse.
Et effectivement, le partenariat qu'on a avec Tiga, donc qui publie le livre, il nous a énormément aidé à nous assurer que la méthode qu'on propose, elle fonctionne pour tout type d'entreprise. Et donc si une entreprise, on a l'impression qu'elle parle de très très loin d'un point de vue discovery, eh ben, on peut commencer en faisant juste des petits pas. Et peut-être que parfois, moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit « j'ai pas le temps de faire la discovery », je crois que c'est parce que, quelque part dans leur inconscient, ils mettent la barre beaucoup trop haut, en fait. Et ce qu'on voit, c'est que les 7 livrables, on peut les remplir en équipe en moins d'une heure. Après, une fois qu'on les a remplis, si on se dit « il y en a un des 7 là », on a vraiment l'impression de complètement inventer les réponses et on n'est pas du tout confiant. C'est peut-être là-dessus qu'il faut passer un peu plus de temps. On n'a pas besoin de faire comme si on ne savait rien et on n'avait aucune certitude. On a le droit d'avoir des certitudes ou des convictions fortes. Et puis, plus on gagne en pratique, plus en réalité ces activités-là la rédaction des livrables est rapide. Donc, en réalité, on gagne de plus en plus de temps. Mais si on part de loin, il n'y a aucun problème. La méthode donne plein de recommandations très concrètes qui permettent de consacrer un tout petit peu de temps si c'est un projet n'en vaut pas la chandelle ou au contraire une méthode qui est adaptée aussi à des projets beaucoup plus ambitieux.
Est-ce que vous avez un dernier conseil, un dernier mot à dire pour la route ?
Alors peut-être le dernier mot, c'est que donc le livre il est disponible sur discovery-discipline.com.
Je mettrai le lien dans la description.
Merci. Et en fait, peut-être le dernier mot, c'est à destination de toutes les personnes qui écoutent, c'est qu'on est très preneurs de recevoir des retours, des désaccords, des questions, des interrogations, etc. Cette méthode, elle a émergé de la pratique. C'est pas une idée théorique qu'on a essayé de plaquer, c'est vraiment la somme de toutes nos expériences passées qu'on a essayé de mettre en ordre et on a aucun doute qu'il y a d'autres personnes qui vont essayer de l'adopter, qui vont découvrir des nouvelles choses et qui vont enrichir notre propre réflexion. Donc voilà, on est très preneurs de recevoir des remarques par rapport à ça.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et pour toutes ces explications sur le livre. C'était hyper intéressant et c'était super chouette de pouvoir creuser le sujet. Et puis, je vous dis à très bientôt.
Merci Gauthier.
Merci beaucoup, à bientôt.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.